Voici le journal complet de la rédaction. Bonjour Claire.
Bonjour Benoît, bonjour à tous. Un été prolixe pour Mediapart, nouvelle révélation du site d'information, cette fois sur Christophe Castaner. Le ministre de l'Intérieur a décoré 9000 membres des forces de l'ordre. Le problème, c'est que parmi les agents, certains sont poursuivis pour violence. Explication de Rosalie Lafarge dans un instant.
La réforme des retraites sur les rails, Jean-Paul Delevoye a donné ses préconisations hier. Le gouvernement tranchera.
Une réforme qui se veut plus équitable pour les femmes, nous dira Lisa Guyenne. L'escalade des tensions encore entre les États-Unis et l'Iran. Les Américains affirment avoir abattu un drone iranien qui s'était approché d'un navire américain dans le détroit d'Ormuz, alors que l'Iran assure n'avoir perdu aucun drone dans ce même détroit. Et puis, quand la réalité essaye de rattraper la fiction, une Red Team composée d'auteurs de science-fiction va donner un coup de main à l'Agence de l'innovation de défense. Oana Favennec nous explique tout ça à la fin de ce journal. Christophe Castaner est appelé à rendre des comptes dans l'affaire des médailles de la honte. C'est ainsi que nomme Mediapart une série de médailles de la sécurité intérieure par un arrêté du 16 juin à plus de 9000 membres des forces de l'ordre. Car parmi eux, selon le site d'information, certains sont poursuivis pour des violences policières, notamment lors des manifestations des Gilets jaunes. Rosalie Lafarge.
Sur les plus de 9000 personnes décorées, Mediapart relève 5 cas pour le moins étonnants. 5 agents impliqués dans des enquêtes sur des violences policières, l'enquête sur les violences subies par Geneviève Le Guéanis, par exemple, celle qui concerne la mort de Zineb Redouane à Marseille également, des officiers dont les noms apparaissent dans l'enquête sur le passage à tabac de Gilets jaunes dans un fast-food parisien, ou encore le commissaire divisionnaire qui encadrait la charge policière du 21 juin à Nantes, charge peut-être à l'origine de la disparition d'un jeune homme toujours introuvable, mais qui a eu lieu 5 jours après l'arrêté décernant les récompenses, souligne-t-on au ministère de l'Intérieur. L'entourage de Christophe Castaner précise également que, parmi tous les noms pointés par Mediapart, aucun agent n'est mis en examen ou n'a été condamné. Et la place Beauvau l'assure, s'il y a une condamnation ou une sanction disciplinaire, si on établit finalement que la médaille a été remise à tort, elle sera immédiatement retirée. Mais ça ne suffit pas à faire taire les critiques virulentes sur les réseaux sociaux, où l'on dénonce au mieux une aberration, au pire une irresponsable provocation.
Rosalie Lafarge. La commission à la réforme des retraites a donc livré ses préconisations hier. Fini les 42 régimes spéciaux qui devraient tous fusionner en un seul à partir de 2025. Un système à points, 1 euro cotisé donnera lieu à un point de retraite. L'âge de départ lui restera fixé à 62 ans, 64 ans pour prétendre à une retraite à taux plein. Le haut commissaire à la réforme, Jean-Paul Delevoye, assure que cette réforme sera plus juste pour tous et en particulier pour les femmes. Lisa Guyenne.
C'est un point sur lequel le haut-commissaire s'est attardé hier lors de sa présentation en conférence de presse du projet de réforme. Aujourd'hui, les femmes ont une pension en moyenne 42% plus faible que celle des hommes. Mais le nouveau système devrait être plus solidaire, explique Jean-Paul Delevoye.
Pour chaque période d'interruption d'activité, chômage, maternité, invalidité, maladie, ça donnera des droits à des points de solidarité qui auront les mêmes valeurs que les points attribués par le travail. Et ils seront systématiquement valorisés au moment de la retraite. Donc aujourd'hui, nous aurons pour la maternité, pour la maladie, à l'euro près le salaire de l'année précédente. Pour le chômage, sur les allocations perçues. Donc les choses sont claires, les contrats sont clairs.
Par ailleurs, en cas de décès d'un conjoint, le système dit de réversion devrait maintenant permettre au conjoint restant de toucher 70% du total perçu par le couple, car ce sont généralement les femmes qui perdent leur mari et leur pension est bien souvent moins élevée. Alors le principe de tout cela est louable, certes, mais pour Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, il s'agirait avant tout de s'attaquer à la source du problème.
Monsieur Delevoye dit on va proposer un système universel qui va réduire l'écart de pension entre les femmes et les hommes. Je lui ai dit, réglez d'abord les écarts de salaire entre les femmes et les hommes, et vous verrez qu'avec notre système, naturellement, les écarts de pension entre les femmes et les hommes seront réduits.
Les négociations sur la future réforme ne sont en tout cas pas terminées. Syndicats et patronats seront de nouveau consultés la semaine prochaine.
Reportage signé Lisa Guyenne.
8h04 sur France Culture, la suite du journal de Claire Flochel. C'est la fin de la procédure principale de Parcoursup ce soir, la plateforme d'accès à l'enseignement supérieur.
Une date avancée par rapport à l'an dernier, le 19 juillet contre le 5 septembre. Et ça n'a pas permis de tout arranger. Loin de là, Théo Conscience, il reste encore de nombreux candidats en attente.
De la colère parce que je me suis dit « qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine ?»
Julie fait partie des quelques 60 000 personnes qui n'avaient toujours aucune affectation sur Parcoursup hier soir. À 20 ans, cette Corrézienne avait candidaté pour 8 formations d'infirmière. Malgré une année de classe préparatoire à 700 euros, elle n'a été prise nulle part.
J'ai quand même essayé de faire une prépa pour avoir de bonnes appréciations, de bonnes notes, pour montrer encore une fois ma motivation. Et nous, ce qu'on nous dit, c'est que c'est un logiciel sur Parcoursup, donc c'est un ordinateur, un algorithme qui a jugé nos notes, nos appréciations et nos stages.
Il y a aussi les candidats qui ont eu une affectation, mais qui ne leur convient pas. C'est le cas d'Amir. Il vient juste d'obtenir un bac ES et avait demandé des DUT en gestion et commerce. Pour remplir les 10 cases de vœux, il avait ajouté une licence à l'université de Créteil qui ne l'intéresse pas vraiment.
On nous presse à accepter des vœux qui ne nous correspondent pas forcément. Tout simplement, ce matin, Parcoursup m'a accepté de force le choix pour l'université de Créteil. Ça m'a supprimé mes autres vœux en attente parce que j'avais déjà eu une proposition d'admission. Donc, du coup, ça m'a forcé à accepter cette proposition. Mais c'est pas du tout une université qui sera proche pour moi, qui me correspond en termes de cadre. C'est plus un choix parce que, bah, tout simplement parce que je n'ai pas le choix. Sinon, je finirai sans fac et sans école l'année prochaine.
Amir s'estime pressé parce que cette année, le ministère a raccourci la période d'admission. Au lieu de se terminer en septembre, celle-ci prend fin ce soir. Cependant, les candidats qui n'ont été acceptés nulle part ont jusqu'au 14 septembre pour se pencher sur les formations qui n'ont pas trouvé preneur.
À 18 ans, il y a donc le bac et aussi le permis de conduire, mais ça va changer. Tous les jeunes qui font la conduite accompagnée vont pouvoir, dès la semaine prochaine, passer leur permis à 17 ans. Annonce de Christophe Castaner dans le journal Le Parisien aujourd'hui en France, ce matin. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'ils pourront conduire tout seuls. Pour cela, il faudra toujours avoir 18 ans. Une question de sécurité, explique le ministre de l'Intérieur. Les tensions vont crescendo entre les États-Unis et l'Iran. Leur théâtre, le détroit d'Ormuz, ce couloir pétrolier entre la péninsule arabique et la corne de l'Afrique. Dernier événement en date, Washington annonce avoir abattu un drone iranien au-dessus de ce détroit car il volait trop près d'un navire américain. Et voilà Téhéran ce matin qui assure n'avoir perdu aucun de ses engins et qui même pointe du doigt une erreur. Les États-Unis auraient abattu l'un de leurs propres drones à New York. Les précisions de Loïc Loury.
C'est Donald Trump lui-même qui a annoncé la nouvelle. Le drone en question s'était approché à moins d'un kilomètre d'un navire de guerre américain. Il menaçait, dit le président, la sécurité du navire et de son équipage. Le drone a donc été détruit et Donald Trump appelle ses partenaires à condamner l'Iran. Téhéran rapidement a simplement affirmé n'avoir aucune information sur la perte d'un drone. Mais voilà qui constitue un nouvel épisode dans la guerre des nerfs que se livrent l'Iran et les États-Unis, notamment autour de ce détroit d'Ormuz. Il y avait eu en juin, justement, la destruction d'un drone, cette fois américain, des attaques de tankers, puis l'arraisonnement d'un pétrolier iranien à Gibraltar. Et hier, enfin, c'est l'Iran qui annonçait détenir un tanker étranger. De chaque côté, le ton se fait de plus en plus agressif. La sortie des États-Unis de l'accord sur le nucléaire et le rétablissement des sanctions y sont pour quelque chose. Il y a deux jours, Donald Trump affirmait malgré tout ne pas pousser pour un changement de régime à Téhéran.
Et hier, le président iranien s'est entretenu au téléphone avec Emmanuel Macron. Hassan Rouhani a une nouvelle fois demandé à l'Europe d'intensifier ses efforts pour sauver l'accord sur le nucléaire. Trois Marocains condamnés à mort hier. En décembre dernier, ils ont tué deux femmes, une Danoise et une Norvégienne au sud du Maroc, dans le Haut Atlas. Au nom du groupe État islamique, ils ont décapité les deux jeunes femmes. En tout, 24 personnes étaient jugées impliquées directement ou non dans l'assassinat des deux randonneuses. Les peines vont de 5 ans de prison ferme à la peine de mort. Donc le reportage au Maroc de Théa Olivier.
Dans le grand hall du tribunal, l'avocat de la famille de la victime danoise, Khalid El Fatawi, est satisfait des peines prononcées.
Les peines sont tout à fait à la hauteur des demandes, conformes avec la loi et conformes aussi avec les actes. Ces gens-là, ils ont fait des actes horribles et ils méritaient cette peine.
La partie civile avait aussi demandé un dédommagement d'1 million d'euros à l'État marocain, une demande déclarée irrecevable par la Cour, sans surprise selon l'avocat Khalid El Fatawi.
Concernant les indemnités, on a fait nos demandes comme partie civile contre l'État marocain, c'est pas contre les accusés, parce que les accusés sont insolvables, n'ont rien du tout. Donc, et on va aller au tribunal administratif, on va les récupérer de l'État marocain.
Certains avocats des accusés ont déjà décidé de faire appel, comme Maître Moulay Hall, qui cumule 6 clients dans ce dossier.
On va essayer de plaider avec des preuves dans la prochaine étape de l'appel, tout en sachant que c'est un droit judiciaire qui nous permet de débattre à nouveau les verdicts.
Parmi les prévenus, un ressortissant hispano-suisse a été condamné à 20 ans de prison pour avoir participé à la radicalisation des principaux accusés. Il clame encore son innocence, soutenu par sa femme marocaine, Fatima. Elle dénonce un procès à charge.
On a vu que ce soit le procureur, que ce soit l'avocat des deux filles, il était vraiment contre mon mari. À part ça, on a tous les preuves pour son innocence. Mon mari, il est contre la radicalisation.
Des preuves et des arguments qui seront bientôt développés en appel.
Reportage signé Théa Olivier. Direction l'Espagne à présent, où cette question se pose ce matin. Pedro Sanchez va-t-il pouvoir rester à la tête du gouvernement? Le socialiste a martelé hier qu'il ne voulait pas du chef de la gauche radicale de Podemos dans son exécutif. Sauf qu'un accord entre leurs partis est indispensable à sa reconduction au pouvoir. Les explications à Madrid de Marie-Hélène Ballesteros.
La situation reste toujours bloquée en Espagne et sauf surprise, cela ne devrait pas s'arranger avant le premier vote d'investiture prévu mardi prochain. Vainqueur des élections législatives du 28 avril dernier, Pedro Sanchez a cependant besoin de l'appui des députés de Podemos pour être investi, car il ne dispose pas de majorité absolue. Mais après des semaines de pourparlers, rien ne va plus entre les socialistes et le parti de la gauche radicale. Pourquoi ? Car Podemos conditionne son soutien à son entrée au sein d'un gouvernement de coalition. Sanchez avait dit non au début, mais désormais il est favorable à la nomination de ministre de Podemos qualifié, mais pas à l'entrée des dirigeants du parti. Par ailleurs, il ne veut pas du chef de la gauche radicale Pablo Iglesias dans son exécutif. Pour lui, c'est le principal obstacle. Or, d'après Sanchez, Iglesias lui a réclamé une vice-présidence et deux ministères. En outre, il a demandé aux militants de Podemos de se prononcer sur la question à travers une consultation interne. 70% d'entre eux se sont montrés favorables à un gouvernement de coalition intégrale avec les socialistes et sans veto. Autrement dit, le blocage continue. Et c'est dans ce contexte que va démarrer lundi prochain le débat d'investiture. Mardi aura donc lieu le premier vote. La majorité absolue est indispensable. Le deuxième vote se tiendra jeudi. Une majorité relative est suffisante, mais Pedro Sanchez n'est même pas sûr d'obtenir l'abstention de Podemos.
Rappelez-vous maintenant ce spectacle futuriste lors du défilé militaire du 14 juillet à Paris. Un homme qui volait à plusieurs dizaines de mètres au-dessus du sol sur son flyboard, un engin de son invention au-dessus des Champs-Élysées. Pour la petite histoire, il s'agissait du champion du monde de jet ski français, Franky Zapata. En tout cas, l'on risque de voir de plus en plus ce genre de scène, puisque la toute nouvelle agence de l'innovation de défense va lancer prochainement sa première Red Team. Red Team, c'est le terme consacré pour ce type de cellule qui essaye de débusquer les failles d'une organisation. L'originalité, c'est que ce groupe de travail sera composé d'auteurs de science-fiction. Oana Favenek.
Les 4 à 5 auteurs de cette Red Team devront se mettre à la place de l'ennemi du futur. Un ennemi particulièrement créatif, imaginatif. Emmanuel Kiva, le directeur de l'Agence de l'innovation de défense, donne un exemple, le char de demain.
Si j'en parle à un ingénieur, le char du futur, il aura un meilleur canon, il aura une meilleure centrale inertielle, il aura un meilleur blindage. En gros, le char du futur, c'est un char. Alors que si on parle à un auteur de science-fiction, peut-être que le char du futur, c'est pas un char, c'est peut-être un machin vivant, c'est peut-être quelque chose qui est biomimétique, c'est peut-être un ensemble de petits robots qui vont s'agréger d'un coup. C'est peut-être quelque chose qui utilisera la physique quantique, j'en sais rien.
Il s'agit donc d'anticiper, scénario catastrophe, futur de l'armement, de déjouer les menaces avant qu'elles ne soient inventées. Des tests de collaboration ont déjà eu lieu, par exemple à Nantes, au dernier festival de science-fiction Les Utopiales. L'auteur de BD et de SF, Denis Bajram, a participé à un atelier avec des militaires sur le drone naval en 2080.
Moi, je raconte une histoire qui se passe dans l'espace avec une flotte militaire importante qui mène une guerre, etc. Je n'ai pas fait l'armée, je ne la connais que par le cinéma, la littérature, etc. C'était évidemment très intéressant de se retrouver d'un seul coup, non pas dans un fantasme, mais dans une réalité très quotidienne des questions que se pose un état-major aujourd'hui quand il pense à la guerre.
L'appel à candidature pour cette Red Team devrait être lancé à la rentrée pour un début de fonctionnement avant la fin de l'année.
Oana Favenek. De la science-fiction à la réalité ou presque sur les réseaux sociaux, limiter la dépendance aux likes, c'est le nouvel objectif affiché par Instagram. Après le Canada en mai dernier, les utilisateurs de 6 autres pays dont l'Australie et l'Irlande ne peuvent plus voir depuis hier le nombre de likes sous les posts. Instagram présente cette initiative comme un test. Pourtant, il s'agit d'un vrai virage pour le réseau social spécialisé dans l'échange de photos. Très populaire auprès des jeunes, il aurait une mauvaise influence sur la santé mentale de ses utilisateurs. Capucine Jaffé. C'est un peu comme une drogue. Il faut poster son meilleur selfie ou sa meilleure photo de vacances pour obtenir un maximum de j'aime. Selon les études, les jeunes seraient particulièrement concernés par cette addiction. Instagram a été classé comme le pire réseau pour la santé mentale des jeunes au Royaume-Uni en 2017. Vie idéalisée, image de soi retouchée, cela provoquerait de l'anxiété et même des comportements dépressifs. Aux États-Unis, par exemple, 40% des adolescents se sentent obligés de partager les contenus qui ont rassemblé un maximum de likes. Alors Instagram veut redorer son image. Il y a quelques mois, le réseau a mis en place un nouvel algorithme. Il met en valeur les contenus de qualité et permet de limiter la chasse aux likes. Si le fait de masquer complètement les j'aime pourra permettre aux adolescents de souffler un peu, cela risque de freiner fortement l'activité des influenceurs qui ont fait des likes un fonds de commerce.
Capucine Jaffé, je vois que Mathéo, vous êtes assez triste de cette nouvelle.
Absolument, je suis un peu perdu, égaré.
On va terminer par la météo avant de vous donner la parole. Le temps de ce vendredi s'annonce pluvieux en Bretagne et ensoleillé au sud. Sur les régions au nord de la Loire, on hésite entre nuages et éclaircies avec un petit risque d'averse près des frontières du nord-est. Ce matin, les températures sont comprises entre 12 et 17 degrés et même de 18 à 22 degrés autour de la Méditerranée.
Merci beaucoup, Claire Flochel.